À Geoffrey Rambini-Nsoa, qui va nous parler des bonnes pratiques dans les marchés publics informatiques. Vous avez la parole.
Merci. Oui, ça fonctionne. Attends, c'est vert. Je sais pas. Oui, je crois que si c'est bon, ça fonctionne. Alors, concernant ma présentation, alors moi, c'est un autre versant du sujet que je vais aborder, parce qu'on parle beaucoup en fait de dématérialisation des marchés publics et des problématiques posées par la dématérialisation des marchés publics. Mais moi, on va dire dans la pratique, hein, depuis quelques années, ce que j'observe beaucoup plus, c'est pas tellement la dématérialisation qui pose des problèmes, elle en pose certainement, mais aujourd'hui, on est dans des problématiques, on va dire, budgétaires, économiques, et c'est plutôt l'achat public d'informatique en tant que tel qui pose véritablement des soucis. Alors c'est pour ça que moi, j'ai orienté ma présentation sur cette thématique, parce que véritablement, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une vraie problématique. Beaucoup de collectivités commencent, on va dire, à aborder le sujet d'une manière différente par rapport à la pratique qu'elle pouvait avoir classiquement. Alors, quelle pratique on avait classiquement lorsqu'on achetait, lorsqu'on passait un marché public d'informatique dans les collectivités ou même dans l'administration? L'approche qu'on retenait classiquement, c'est une approche finalement relativement juridique, c'est-à-dire que vous avez un code des marchés publics, un périmètre. Lorsque j'ai un besoin, l'opérationnel me disait « j'ai un besoin » et on ouvrait son code des marchés publics et on regardait effectivement comment est-ce qu'on pouvait respecter le code des marchés publics pour acheter un ordinateur, un logiciel, un site internet ou autre. Donc vous aviez l'approche que j'ai appelée, enfin la première phase du cube, donc l'approche juridique, on va dire pour moi classique, avec des questions qu'on pouvait se poser, à savoir est-ce que je dois passer un appel d'offres, est-ce que je dois passer une procédure adaptée en respectant les seuils, est-ce que je peux négocier, quel mode de contractualisation je choisis, à savoir le marché à bons de commande, hein, c'est-à-dire je ne connais pas les quantités à l'avance, mais je vais mettre les bons de commande au fur et à mesure. Pareil, quelle estimation financière, ce genre de choses, les pénalités ou autres. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans beaucoup d'administrations, hein, et collectivités, je pense notamment à la ville de Paris, la région Île-de-France commence très 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 progressivement à s'y mettre, mais s'y met quand même un petit peu, vous avez la seconde phase du cube qui commence à arriver. C'est-à-dire que vous avez donc cette approche, on va dire que moi j'ai appelé achat, qui par exemple relève de l'analyse des coûts et la cartographie des achats. C'est-à-dire que avant même de passer mon marché public, je vais m'interroger sur, finalement, au niveau de la collectivité, au niveau du ministère, quel est mon portefeuille achat. Car le point, enfin, ce qui est progressivement considéré comme fondamental, c'est que les marchés publics ne sont aujourd'hui qu'un levier pour faire des économies. En fait, c'est la considération, en tout cas, que l'on observe, hein, de plus en plus, que moi j'observe, en tout cas personnellement, dans l'administration. Alors, sur la démarche verticale, qu'est-ce que le sourcing, RFI, ces aspects? Je l'ai mis sur la slide après, mais je peux l'aborder dès maintenant. En fait, si vous voulez, traditionnellement, mais c'est l'approche d'ailleurs qui est celle du code des marchés publics, hein, c'est tout est centré sur l'administration. C'est-à-dire que lorsque je dois passer un marché public, je m'interroge sur mon besoin, article 5.6 du code des marchés publics, je m'interroge sur le mode de contractualisation, etc. Mais en fait, vous n'avez pas véritablement une ligne sur l'aspect fournisseur. C'est-à-dire, un marché public, c'est un contrat entre un opérateur économique et l'administration. Cet opérateur économique est fondamental. Il faut absolument le connaître avant même de passer à un marché public. Qu'est-ce que le RFI? Le RFI, c'est un questionnaire que vous allez envoyer aux entreprises, bien entendu en respectant le principe d'égalité des candidats, et qui va vous permettre de savoir, finalement, avant même de lancer votre marché, qu'est-ce que propose les entreprises. Parce que si vous lancez votre marché sans savoir ce que proposent les entreprises, en partant uniquement de votre besoin, vous allez avoir deux solutions. Soit zéro réponse à votre appel d'offres, soit vous allez payer 30 à 40% plus cher. Après, c'est un choix à faire. Donc, voilà, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est déjà, quel est le marché fournisseur qui est en face? Éventuellement, l'analyse de coûts. Là, l'intervention qui a pu être faite est de ce point de vue très intéressante, hein, parce qu'il y a véritablement une mesure, hein, de la performance de ce qui a été réalisé. Et je tiens à le soulever parce que c'est pas réalisé enfin, c'est pas réalisé partout, hein, très clairement. Et la co-conception, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme qu'on commence à voir apparaître dans l'administration. Par exemple, sur l'espace numérique de travail, hein, le projet Lily, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est une co-conception du Conseil régional d'Île-de-France avec une entreprise en libre que d'autres collectivités ont réutilisé d'ailleurs par la suite, ce qui permet bien entendu de générer des économies. L'approche transverse, c'est que finalement, aujourd'hui, lorsqu'on passe à un marché public, les marchés publics, si vous voulez, c'est un système de briques, c'est-à-dire que vous allez passer un marché public, par exemple, je sais pas moi, sur la conception d'un site internet, voilà, vous n'allez pas forcément acheter dans votre marché public également la formation associée, la maintenance, ce genre de choses. Votre marché public doit être connecté avec d'autres aspects informatiques, donc par exemple le schéma directeur informatique, ce qui est assez fondamental. De même, internalisation, externalisation, avant même de lancer votre marché public, bien entendu, vous devez vous interroger sur, bah, finalement, est-ce que ça va me coûter plus cher ou moins cher, s'il vous plaît. Merci. Donc là, ce que j'ai mis, c'est à gauche, en fait, vous avez l'approche besoin. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre marché public, effectivement, vous allez vous interroger sur votre besoin. Donc là, typiquement, recueil du besoin interne, formalisation d'un cahier des charges, mener la mise en concurrence, conception et développement, tester recettes. Bref, tout ce dont vous avez besoin en interne pour fonctionner. La question, c'est comment est structuré le marché fournisseur en face. Et vous avez plein, on va dire, vous avez un marché fournisseur qui se décompose de différentes manières. Vous avez par exemple des fournisseurs généralistes qui sont capables a priori de générer tous les sujets, mais lorsque vous allez leur poser des questions particulières, ils vont devoir avoir recours à la sous-traitance. Hein. Un exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est un marché sur un site internet qui a été lancé. Vous avez à l'intérieur de ce marché de site internet une prestation de graphisme, hein, qui est prévue, et vous vous retrouvez bloqué, dans le sens où, une fois que la direction de la communication souhaite obtenir des prestations de graphisme, du fait des marchés publics, elle est obligée de passer par ce prestataire. Ce prestataire ne sait pas faire, bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sous-traiter sa prestation. Et bien entendu, ça va coûter finalement beaucoup plus cher à la collectivité de ce fait. Donc la logique que je cherchais juste à montrer, c'est que lorsqu'on lance un marché, le point, c'est qu'a priori, il faut connaître absolument à qui on s'adresse avant de lancer son marché, pour effectivement éviter les infructueux, éviter les surcoûts, éviter les difficultés d'exécution. Au niveau de la stratégie, donc là on est avant le lancement du marché, donc ce qu'on voit émerger aussi dans l'administration, hein, c'est une logique projet qui commence de plus en plus à se développer, à savoir le qui fait quoi, hein, ça paraît tout bête, mais voilà, le qui fait quoi, prévoir des points jalons, etc., avoir une véritable logique projet, c'est quelque chose qu'on voit véritablement émerger dans l'administration. De même, avoir une approche horizontale. Là, l'exemple que je vous ai cité, c'est une approche horizontale. Pardon, une approche verticale, excusez-moi. Une approche horizontale, ça pourrait être de dire que, là, par exemple, sur la prestation maintenance, peut-être que la collectivité a par ailleurs besoin de maintenance pour 5, 6 marchés, 7 marchés. Donc l'approche, ça pourrait être éventuellement de sortir l'achat de maintenance et de passer un marché qui sera spécifique à la maintenance. Et vous pourrez éventuellement avoir des fournisseurs qui sont spécialisés sur l'aspect maintenance. Voilà, c'est deux choix d'approche. C'est un choix qui doit se faire, on va dire, économiquement et vis-à-vis également du marché fournisseur, également local. Et bien entendu, la forme contractuelle sera différente selon le choix que l'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans une approche verticale, vous allez être sur un marché a priori plutôt forfaitaire, et si vous êtes sur une démarche horizontale, on est plutôt sur un marché de type marché à bon de commande ou accord cadre. Donc en fait, c'est votre stratégie qui va définir votre mode de contractualisation. Approche, ce que j'ai mis verticale et horizontale, c'est par exemple sur l'approche verticale, c'est anticiper l'évolution des comportements et des technologies. Je pense à un cas qui a pu arriver. Vous avez par exemple un centre d'appel avec une volumétrie relativement importante. Le point, c'est que les utilisateurs, de plus en plus, ne vont plus utiliser le téléphone, ils vont plus utiliser le multicanal, à savoir le canal Internet. Du coup, la volumétrie téléphonique va diminuer et votre estimation, on va dire, définie en amont, doit prendre en compte ces évolutions de comportement. Le cas concret, c'est que si vous êtes sur un marché forfaitaire et que vous avez prévu, j'en sais rien moi, une unité d'œuvre à 1000 sans prendre en compte ce changement de comportement de la part des utilisateurs, c'est que vous allez payer 1000 alors qu'en réalité, peut-être que ne sera consommé que 800 ou 700. Voilà, c'est un exemple, mais c'est un exemple, encore une fois, réel, en regardant, en vérifiant des factures, etc. Pareil sur l'allotissement, sur le développement durable. Le développement durable, j'ai prévu une slide après, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la développer. Donc je vais en parler très très rapidement maintenant. Sur le développement durable, ce que l'on voit, alors là on en est encore vraiment assez loin, parce qu'aujourd'hui on parle de développement durable essentiellement en matière de marché public informatique matériel, mais c'est relativement peu intégré sur l'immatériel. Or, bien entendu, on peut intégrer le développement durable sur l'immatériel, à savoir ce qui va émerger, à mon sens, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire dans la manière de concevoir le logiciel. Ce qu'on dit par exemple, c'est que lorsqu'on maintient du Java, ça va coûter 4,3 fois plus cher que quand on maintient du Cobalt. Pareil, lorsqu'on conçoit le logiciel, alors après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ces chiffres, mais en tout cas, c'est dans la manière de concevoir le logiciel que l'on pourra prendre le développement durable en compte, ce qui aujourd'hui, enfin, il faut bien le dire, dans les marchés publics, on prend relativement peu en compte le développement durable dans les marchés publics immatériels. S'il vous plaît. Donc au niveau des mauvaises pratiques, parce que sur la thématique bonne pratique, il y a aussi mauvaises pratiques, ce qu'on observe généralement, je ne vais pas tous les lister, je vais simplement en parler de un ou deux, ce qu'on observe généralement comme relativement mauvaise pratique, donc citer cet exemple, absence de sourcing, c'est-à-dire absence de connaissance des fournisseurs qui sont en face, qui peuvent véritablement conduire à des marchés complètement inadaptés et qui en pratique posent de difficultés qui sont réelles. Sur l'horizontale, je prends l'exemple du CCAG éthique. Le CCAG éthique, donc ce contrat type qui a été établi par l'administration auquel on peut faire référence, est relativement peu maîtrisé aujourd'hui, véritablement, parce que ce CCAG éthique ne prend pas en compte les différents types d'anomalies, ne prend pas en compte les logiciels mixtes, prend en compte de manière extrêmement, on va dire, approximative tout ce qui est lié au logiciel libre, et je pourrais citer tout un tas d'exemples. Bref, le CCAG éthique nécessite évidemment d'être adapté et on observe qu'il est relativement peu maîtrisé aujourd'hui. Donc sur les bonnes pratiques. Donc sur les bonnes pratiques observées, donc je citais cet exemple, mais je trouvais que c'était intéressant de l'illustrer. Donc cette pratique du RFI, donc l'exemple que je cite, c'est celui de la Banque de France, parce que véritablement en termes de pratique, je trouve ça assez innovant, on ne le retrouve pas partout. Vous avez sur leur site internet, donc organisme soumis à l'ordonnance de 25649, vous avez sur leur site internet un espace qui est disponible dans lequel ils vont lancer, bien avant le lancement du marché, un questionnaire afin de laisser aux candidats la possibilité d'indiquer qu'est-ce qui est en standard dans leur offre, qu'est-ce qui est paramétrable, qu'est-ce qui est spécifique. Ce qui permet, si vous voulez, à l'entité publique, mais j'ai cité la Banque de France, mais Pôle emploi le fait, le ministère de la Défense le fait, enfin bref, beaucoup d'entités le font finalement. Ça permet, avant le lancement de marché, si vous voulez, d'être sûr de ce que l'on lance. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur un marché à bon de commande, par exemple, de 4 ans, on va être bloqué pendant 4 ans avec un fournisseur, quand même, du point de vue du droit des marchés publics. Donc, évidemment, on peut pas se planter. Enfin, encore plus en marché public qu'en droit des contrats privés. Donc, bien entendu, il faut prendre en compte donc le marché fournisseur et ce qu'il propose. Alors, sur les réflexions qui sont engagées, donc l'allotissement, on peut voir des réflexions qui sont intéressantes sur l'allotissement et sur les accords cadres. Donc là, j'ai mis quelques exemples d'allotissement qui peuvent être intéressants. Je citerai uniquement le premier. Pourquoi je citerai le premier? C'est le SAE qui a choisi ce type d'allotissement. Parce que c'est un allotissement qui est original parce qu'il ne prend en compte que le marché fournisseur. C'est-à-dire que l'interrogation qu'il y a pu avoir lorsque ce marché a été lancé, c'est si le projet est trop petit, les grandes entreprises ne vont pas être intéressées, donc elles ne vont pas répondre. Si le projet est trop grand, les petites entreprises ne vont pas pouvoir répondre parce qu'elles n'auront pas les capacités en interne de pouvoir assumer l'exécution du marché. Donc si vous voulez, là de ce point de vue-là, vous avez un exemple d'allotissement qui est assez intéressant de ce point de vue, parce qu'il est véritablement orienté sur une logique de réflexion sur les fournisseurs qui sont en face. Sur le recours à l'accord cadre, ce qui est intéressant, c'est, enfin, pour les administrations qui ont eu recours à cette pratique juridique, c'est de visualiser, si vous voulez, le nombre de marchés subséquents qui ont pu être passés sur l'accord cadre. Parce qu'on observe, je dirais pas souvent, mais relativement souvent, lorsqu'on contrôle, entre guillemets, des accords cadres, que vous avez des accords cadres qui sont passés avec un marché subséquent par an. Ou alors un tous les deux ans. C'est-à-dire que l'accord cadre n'est adapté finalement que lorsqu'on a une masse relativement critique d'achat. Lorsque vous avez qu'un besoin ponctuel, évidemment, il est préférable de passer un marché ponctuel forfaitaire. Sur le marché mixte, je le cite parce que c'est une pratique qui est relativement... Je sais pas combien il me reste de temps. 3 minutes, d'accord. Sur le marché mixte, une pratique qui a tendance à se développer et qui est assez intéressante. Qu'est-ce que le marché mixte? Le marché mixte, vous avez une part forfaitaire qui est définie, et sur une partie du périmètre qui n'est pas définie lors du lancement de l'appel d'offres, vous allez commander des unités d'œuvre. Donc bien entendu, pas du jour homme, bien entendu, mais vous allez qualifier des livrables type que vous allez commander ensuite via des bons de commande. Sur les autres pratiques qui peuvent être intéressantes. Donc vous avez la région, c'est la région PACA qui a mis ça en place, à savoir, et puis également la CNSA, bon, la DGFiP le fait depuis un certain temps, la méthodologie des points de fonction, ou COCOMO, qui est utilisée dans l'administration, qui permet, si vous voulez, de pallier au risque de l'accord cadre. Alors le risque de l'accord cadre, c'est quoi? Vous définissez des unités d'œuvre, les entreprises, pour remporter le marché, mettent des prix qui sont extrêmement bas sur les unités d'œuvre, remportent le marché, et une fois que vous remettez en concurrence, elles augmentent toutes leurs prix de 25%, peut-être pas, mais 20-25%. La méthode des points de fonction, ou COCOMO ou autre, permet, si vous voulez, de définir dans votre premier marché, dans votre accord cadre, comment est-ce que vous allez estimer les charges, avant même, si vous voulez, les remises en concurrence. Ce qui permet, bien entendu, de cadrer le marché et de limiter les augmentations de prix. Là, je vous ai mis un autre exemple, les fiches profils. Les fiches profils, c'est quoi? C'est contractualiser dans la mise en concurrence, pas des personnes, parce que ça, on n'a pas le droit, mais des profils avec des niveaux d'expérience, avec des missions qui ont été réalisées, ce qui permet, encore une fois, pendant l'exécution du marché, de cadrer, gérer son prestataire. Alors, sur les réflexions qui se développent, j'en ai parlé rapidement. Le développement durable. Donc, le développement durable. Bon, il y a eu un colloque, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait très récemment au niveau des ministères sur cette question, parce que dans le domaine de l'immatériel, il est très difficile d'intégrer le développement durable. Donc, l'éco-conception, effectivement, un point qui va certainement se développer de plus en plus, à savoir dans le domaine applicatif. Quelle consommation énergétique selon la manière dont je conçois le logiciel? Je finis. En matière sociale, la question du portage salarial, éventuellement, pour faire travailler certaines catégories de population, entre guillemets. Le coût global, donc les logiques de co-développement, les logiques d'anticipation des changements de pratiques, et également les possibilités, le cas échéant, c'est ce qui est prévu par le CCAG éthique, c'est nouveau entre guillemets, à savoir la logique des redevances, c'est-à-dire comment est-ce que l'État, les collectivités peuvent, à travers la co-conception, effectivement, récupérer l'argent qui va être généré par la co-conception du logiciel. Bon, j'en ai terminé.